Maintenant il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi.
Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger?
Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide, suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir quelques champignons. Mangez-moi. Avec les âmes et ouvre les volets de ta perception. Car à la descente, car à la descente, car à la descente.
Eh ben oui, vous l'avez tous reconnu, c'était Billy the Kick. Et les gamins en folie.
Voilà, on espère que vous avez entendu la chanson. Parce que...
Voilà, on est désolé, le son était un peu fort. On a un peu faible. Un peu faible. On a tout fait pour gagner dans tous les sens. Ouais. Mais bon, voilà, ça passait très, 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 très peu à la sortie. Voilà, donc c'était Mangez-moi.
Ouais, hein. Ok. Ouais, des petits soucis techniques ce soir. Parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe sur la table de mixage. Voilà. Alors, on va
d'ailleurs,
maintenant...
D'ailleurs, je l'ai coupé vachement tôt, je crois.
Non, c'était fini. T'inquiète pas. Bon, allez. donc, on va commencer l'émission. On va commencer par cette histoire de groupe interrégional de la gendarmerie de Bretagne qui...
Qui fait du zèle.
Vous voyez, je sais pas. Enfin, qui ont eu la bonne idée, entre guillemets, la mauvaise idée, voilà, d'aller perquisitionner plusieurs enseignes indoor garden. Alors, à Caen, au Mans, à Carquefou et à Rennes. Donc, puis tous en même temps. Hein.
Voilà. Le même jour.
Comme s'ils allaient interpeller un groupe de terroristes, en fait. Hein.
Ah, bah, en tout cas, ils les ont tous mis en garde à vue. Hein.
Voilà. Alors.
4 magasins donc perquisitionnés, 4 ouais. Gros shops.
Mais moi j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. J'ai un peu du mal.
Peut-être qu'on va imaginer qu'ils soupçonnaient que c'était des gros terroristes, des mafieux qui vendaient en loose des milliers de kilos d'herbe.
Mais François Thierry aurait été au courant.
Bah ouais, mais a priori non. Ou alors peut-être que l'indique les a induits en erreur. Le chacal.
On en reparlera. Hein. Bon, alors en tout cas, voilà, on comprend pas tellement dans le sens où il y a quand même des gros shops en France depuis
20 ans.
20 ans maintenant, oui. Que ce genre d'opération, honnêtement, on l'a pas vu depuis au moins
10 ans. Mais les dernières fois, c'était sous Sarkozy, c'est lui qui nous a,
une dizaine
qui a bien
ouais.
Fait chier les gros shops à l'époque.
Un certain nombre d'entre
eux. Voilà, c'était l'époque où d'ailleurs, ils essayaient de vendre des graines. Alors, il y avait les graines de collection, il y avait les graines à oiseaux,
les graines à poissons.
Tout ça a un petit peu disparu. Maintenant, de toute manière, c'est tellement facile de les trouver par Internet que...
Oui, ben, plus vraiment d'intérêt, ouais.
Voilà, et puis en Hollande, ils ont des bonnes graines, donc bah voilà, les gens se servent. Ou alors, font un petit voyage en Hollande pour ramener les graines. Celles-ci passent en général, ça n'a pas d'odeur, les chiens ne le sentent pas. C'est très petit, ça se cache dans n'importe quoi. Voilà, c'est. Et puis, même si on les trouve, c'est pas vraiment illégal, donc compliqué tout ça. Donc en tout cas, pour les graines, ça passe. Donc les gros shops n'en font plus. Donc, a priori, c'est ce que les gendarmes, et donc quoi, d'après les articles hein, de West France et un petit peu ce qu'il y avait dans la presse, c'est ce que les gens du GIR cherchaient. Et donc, ben voilà, ils ont rien trouvé, a priori. Donc, ils ont quand même ouvert une enquête et c'est une enquête qui est ouverte pour complicité de trafic de stupéfiants. Et exactement, c'est une enquête préliminaire dirigée par le parquet de Nennes, de Pou, pardon. Donc cette enquête préliminaire est dirigée par le parquet de Rennes pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et provocation à l'usage de stupéfiants. Et donc là-dessus, nous avons eu un communiqué de presse du CIRC pour réagir à cette...
Alors juste avant le communiqué de presse, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, comme je disais, on se demande pourquoi ils sont descendus là. En fait, non pas tant que ça, il suffit qu'ils interpellent un individu avec, mettons, je sais pas, de l'herbe sur lui, ce qui est tout à fait possible. Hein.
Surtout dans des gros shops qui en vendent, quoi, qui vendent tout le matériel pour cultiver des plantes d'intérieur.
Bah, il suffit qu'ils interpellent un individu qui a du cannabis sur lui et qu'ils lui demandent où est-ce qu'il, comment il a fait pour avoir ça et qu'ils disent bah, « je l'ai fait pousser ce cannabis chez moi et j'ai obtenu tous les renseignements en allant dans telle boutique ». Voilà. Je pense que ça peut commencer comme ça.
Voilà. Donc en tout cas, c'est pour complicité d'infraction à la législation des stupéfiants. Voilà.
Voilà.
Donc en tout cas, le CIRC a fait un gros communiqué de presse, je ne sais pas si tu veux le lire en intégralité.
Mais si. Donc voilà, le GIR de Bretagne, donc GIR c'est groupe interrégional, hein, de la police, de la gendarmerie, tout ça, voilà. Le GIR de Bretagne, accompagné de la gendarmerie, a procédé mardi 26 septembre à des perquisitions dans des magasins de la chaîne Indoor Garden, spécialisée dans la culture d'intérieur, suite à une enquête préliminaire du parquet de Rennes, comme tu disais, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants ou provocation à l'usage de stupéfiants. Il s'agirait, comme les autorités voudraient le faire croire, de lutter contre l'épouvantail de la drogue. Hein ? La vérité est qu'il existe en France plusieurs centaines de ces commerces communément appelés gros shops, dont la nature tendancieuse des services proposés n'a d'égal que l'hypocrisie de nos sociétés vis-à-vis du statut du cannabis. Ces échoppes répondent à une réelle demande, celle de centaines de milliers de cannabinophiles désireux de ne pas financer les réseaux criminels en autoproduisant leurs plantes chéries, tout en réduisant les risques liés à l'approvisionnement illégal. En choisissant de s'y attaquer, les autorités se rendent une nouvelle fois complices des mafias, auxquelles elles abandonnent un marché extrêmement profitable.
Je te laisse prendre ton souffle et je rajouterai que ces gens qui produisent essayent de le produire avec de la bonne qualité et surtout de ne pas s'empoisonner avec des produits illicites,
frelatés, mauvaise qualité, dangereux. Voilà. Donc en choisissant de s'y attaquer, les autorités se rendent une nouvelle fois complices des mafias auxquelles elles abandonnent un marché extrêmement profitable, la répression dynamisant de toute évidence la filière. L'existence de ces boutiques spécialisées comme celle de toutes les entreprises œuvrant dans cette filière démontre, s'il le fallait, la remarquable dynamique existant dans un secteur pourtant soumis à une législation des plus répressives et employant plusieurs milliers de personnes, faut-il le rappeler ? Ceci devrait au contraire amener nos dirigeants à une plus profonde réflexion sur la question de la régulation globale du champ récréatif et thérapeutique, comme l'ont fait plusieurs États sud et nord américains.
Si sud d'aventure. Comme le recoin, nord comme certains États des États-Unis, le Nevada,
le Colorado en premier.
Voilà, et bientôt le Canada.
Voilà, oui. Alors, si d'aventure les autorités françaises venaient à persister dans une stratégie aussi vaine qu'absurde face à l'inexorabilité d'une législation, d'une légalisation, le CIRC leur conseille alors de s'en prendre tout aussi logiquement aux fabricants de feuilles à rouler, ainsi qu'à leurs distributeurs, les buralistes, tout aussi complices. Et pourquoi pas à l'industrie du tabac, dont on sait que cette substance entre dans la composition des joints de cannabis. Et moi, je rajouterais même à EDF, à la limite, tant qu'on y est.
Voilà, oui, parce que de toute manière, des gens qui aient des buralistes qui vendent des grandes feuilles, on sait que c'est uniquement pour rouler des joints. Donc, ils sont forcément complices. Et donc, il faut tous les arrêter, tous en cabane, les buralistes.
Bon, décidément...
C'est des suppôts de Satan.
Si la vie de nos concitoyens et concitoyennes a considérablement évolué sur la question du cannabis, le législateur, lui, semble incapable d'en prendre la mesure. Incapable ou non, ne veut surtout pas. Il serait pourtant salutaire pour notre santé, notre sécurité et nos libertés d'enfin adapter le droit aux mœurs françaises. Le projet de contraventionnalisation prochainement présenté à l'Assemblée nationale ne s'inscrit absolument pas dans cette logique progressiste comme le soulignaient les différentes organisations de la réduction des risques et d'usagers des drogues auditionnées le 14 septembre dernier par la mission chargée d'en étudier l'impact.
Voilà, ceux qui ne le savaient pas, cette contraventionnalisation a été présentée par Gérard Collomb. On va sans doute revenir sur le marché de la législation à l'Assemblée nationale. Et elle est soutenue par notre super président Macron, notre Napoléon.
Bien. Cette mesure ne fera que renforcer la défiance des populations les plus précaires, jeunes des quartiers populaires, hein, pour l'essentiel, on sait bien, victimes de contrôles aux faciès et du harcèlement quotidien, d'une police dépassée et impuissante que la contraventionnalisation instituera désormais pour la plus grande satisfaction des forces de l'ordre.
Et voilà, et nous allons conclure cette ce communiqué de presse du CIRC par cette dernière phrase.
Ah mais tu me coupes pour dire ça, dis donc. Bon, sans doute ne tarderons-nous pas à en mesurer les conséquences désastreuses, mais gageons que là encore, les ayatollahs prohibitionnistes ne manqueront pas de trouver quelques improbables explications comme le manque de troupes pour mener leur stupide croisade. Voilà. Donc, comment faire quelque chose dans la lutte contre la drogue qui ne sert à rien? Eh bien, ça. Allez, perquisitionner des boutiques, des gros shops là, un peu partout en France.
Ah bah oui,
c'est lamentable.
Quoi. Sinon, s'ils s'attaquent pas aux gros shops, ils s'attaquent aux cultivateurs. Hein, là, comme on le voit dans World Press, à Vesoul, il cultivait du cannabis pour éviter à ses enfants d'en acheter. L'homme, un agriculteur de 46 ans, avait aménagé une serre à son domicile.
Ben oui.
Donc,
je
continue, je vais la faire très courte. C'est un homme de 46 ans qui a été interpellé après que plusieurs plants de cannabis aient été découverts chez lui lors d'une perquisition. Pourquoi ils sont déboulés chez lui, il n'en est rien dit, ça doit sans doute...
Si, ils expliquent.
Ah.
Si, l'affaire débute lorsque les gendarmes débarquent chez ce maraîcher vivant à Vesoul pour perquisitionner son domicile dans le cadre d'une affaire de cambriolage dans lequel son nom apparaissait.
D'accord. Voilà. Et donc, les gendarmes ont remarqué une serre dans le jardin dans lequel il y avait une plantation de cannabis, où il y avait une vingtaine de plants. Et donc, il y avait aussi du matériel permettant de faire sécher l'herbe, est également découverte. Donc, l'homme a la main verte, puisque les plantes sont particulièrement vigoureuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle pèse 100 grammes, 200, 300, 1 kilo, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, pour se justifier, l'homme indiquera aux enquêteurs qu'il est un consommateur régulier de cannabis et qu'en plus, il en a fait un petit peu plus pour que ses deux enfants, qui sont eux aussi consommateurs, n'aillent pas acheter leur drogue n'importe où et aient un cannabis de qualité. Voilà, voilà.
Alors, dans cet article, à aucun moment par la suite, après nous avoir dit qu'ils étaient venus chez lui pour une affaire de cambriolage, machin, en fait, ils n'ont jamais rien trouvé qui se rapportait à cela. Par contre, voilà, l'histoire du cannabis qui pousse, alors ça les intéresse.
Eh oui, oui.
Alors, on se demande même si finalement le... Enfin, on se demande en fait si parfois ils viennent vraiment pour ce... Quoi, ils doivent venir.
Voilà, et puis de toute manière, si cette personne a été cambriolée à cause de son cannabis, eh ben, ils s'en foutront des personnes qui auront cambriolé, mais par contre, lui sera inculpé parce qu'il aura planté...
une plante vénéneuse.
Voilà, et qu'il aura encouragé des cambrioleurs à venir lui voler ses plants.
Ouais, je sais pas si c'était pour ça...
C'est une survivante.
Et voilà, voilà, on a encore écouté Billy the Kick. Ça, c'est Ma Plante. C'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus connu. C'est une chanson qu'on vous passe souvent. Et puis, ben, on finira peut-être encore par une chanson de Billy the Kick. D'autant plus que nous n'aurons pas de
générique,
de générique parce que je sais pas où est passé le CD. Il y a eu quelques petits soucis. C'est des choses qui arrivent.
On le retrouvera la semaine prochaine.
On l'espère, sinon il va falloir qu'on en recrée un, et ça sera pas facile. Voilà, donc on va reprendre l'activité avec les Suisses et le CBD.
Oui, en avant.
Le chanvre sans THC, quoi, le cannabis sans THC, soit du chanvre avec plein de CBD.
Oui, alors sans THC, enfin, il semblerait que les Suisses aient mis au point un chanvre adapté au marché français, c'est-à-dire qui contient moins de 1%, voire un peu moins de 0,2%, c'est-à-dire.
Ouais, pas seulement au marché français, mais au marché européen.
Oui, mais bon, je pense qu'il y a d'autres pays où, à partir du moment où il y a...
Où ils sont un peu moins chiants que les Français, tu
oui,
veux dire.
Oui, là, en France, c'est 0,2%.
Oui.
Voilà. Alors, attention, hein. Ça ne veut pas du tout dire que si jamais vous avez ce cannabis-là dans la poche et que vous êtes arrêté par la police, qu'on va vous laisser tranquille et qu'on va vous laisser votre cannabis. Hein, je veux dire, ça, il faut quand même vraiment le dire aux auditeurs et auditrices. Compte tenu de l'ambiance actuelle en France, ne comptez pas sur la police pour vous faire une fleur, si j'ose dire. Et voilà, si vous êtes arrêté en possession de ce cannabis, vous irez aussi au poste en garde à vue.
Voilà, donc
vous serez poursuivi.
Il faudrait que vous demandiez une analyse.
Il va falloir que vous demandiez une analyse, effectivement.
Là, il faut que vous soyez sûr de ce que vous avez acheté, parce que pour demander l'analyse, il faut en être sûr, sinon vous allez la payer doublement.
Voilà. Donc,
une fois l'analyse, une fois la peine. Hein, donc ça fait doublement.
Voilà. Donc en fait, vous avez des chances de vous en sortir à l'issue d'un procès s'il y a des analyses qui sont pratiquées et qu'effectivement les analyses vous donnent raison.
Voilà, mais en tout cas, gardez bien le sachet dans lequel vous les avez achetés, la preuve d'achat, le pourcentage sur lequel ils vous l'ont vendu, parce que si jamais le contrôle prouve qu'il a plus de 0,2% et que le Suisse ou le vendeur qui vous l'a vendu vous certifiez qu'il avait moins de 0,2%, vous pourrez vous retourner contre lui. Et ça sera à lui de payer l'amende. Je pense qu'on va s'amuser dans les cours les cours de justice dans les temps
dans
qui
les prochains, dans les prochaines années, oui. C'est, les prochaines décennies même, parce que je suis pas sûr que...
Voilà, voilà. En tout cas, ce liquide, il a plein de CBD, donc il est avec des effets similaire aux e-liquides au CBD qui existent déjà avec un goût de weed en plus. Voilà, alors est-ce vraiment légal? C'est la question que pose Newsweek.
Newsweed. Parce que Newsweek, c'est autre chose.
Alors, tous les producteurs français de chanvre industriel le savent, le cadre légal français restreint strictement l'utilisation des fleurs de chanvre, importation et utilisation commerciale notamment, et prohibe tout produit dont le taux de THC est supérieur à 0,2%. De plus, le droit européen qui prévaut au droit français sur ce point ne restreint en revanche pas l'utilisation du chanvre à certaines parties de la plante et autorise, comme le droit français, le commerce de produits dont le taux de THC est inférieur à 0,2% de THC. Voilà, voilà. Donc, comme les Suisses, à force de travailler, ont descendu leur taux de CBD, donc de cannabidiol, à moins... ont augmenté le taux de cannabidiol et ont baissé le taux de THC à 0,2% pour pouvoir s'adapter au marché européen. Eh bien, ça devrait marcher.
T'as l'air bien optimiste.
Je pense qu'on va s'amuser en tout cas. J'espère qu'il y aura quelques foufous qui iront et qui auront assez d'argent pour pouvoir se payer les procès, les surprocès, les appels, etc.
Malheureusement, etc. Je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que
c'est comme ça que ça va évoluer. Hein.
Ben moi, je pense que c'est plutôt comme ça que ça va pas évoluer ou que ça va évoluer extrêmement, extrêmement doucement. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des gens qui auront ce genre de cannabis sur eux, je pense que malheureusement, la crainte des poursuites, les frais qui pourraient être engagés, tout ça, ça va dissuader beaucoup de gens. Voilà. J'espère me tromper, hein, mais on va déjà comment ça se passe.
On va voir.
Voilà. On traverse l'Atlantique, c'est ça?
Ouais, on fait un flight.
Dans un pays où la législation est un peu plus favorable. Dans certains états où elle l'est, en tout cas, dans certains états des États-Unis, hein, parce qu'on,
oui.
C'est de ça dont on parle.
Donc, dans les 5 états où c'est légal aux États-Unis. Donc, on a dit Nevada, Colorado.
Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada, je ne me rappelais plus.
Si on l'a déjà dit, Nevada et
la Californie.
Bien sûr, voilà.
Voilà. Et je ne sais pas s'il n'y a pas le Massachusetts.
Non,
le
Maine, ils en
bientôt.
Sont que 5.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Non, le Maine, ils avaient refusé.
Ouais,
non,
mais
voilà, mais bon,
vite,
ça fait déjà pas mal. Ça fait quand même un bon petit pourcentage d'États. En tout cas, 2 personnes. Ça, grâce à la Californie, ils arrivent du coup à 15 ou 20% de la population américaine. Donc, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, la légalisation du cannabis dans plusieurs États, donc dans ces 5 États que l'on vient de citer, a des conséquences économiques inattendues. C'est un rapport d'un cabinet assez sérieux, Consumer Research Around Cannabis, qui a donné ces données, puisque sur les enseignes de restauration rapide. En effet, quand on mange, quand on fume du cannabis,
bah, il arrive qu'on ait un petit creux.
Ou un gros creux.
Ouais, on appelle ça les munchies en anglais. C'est un important nom.
Et donc, quand on a ces munchies, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va manger. Et où va-t-on manger aux États-Unis? Eh bien, dans un fast-food. Et donc, surtout que ben, les fast-food, ils ont des horaires de vente assez amples.
Oui.
Puisque c'est assez simple de faire cuire ces petites merdes pour les petites faims.
Ou les grosses. Vu la taille des hamburgers et des parts de frites et de soda aux États-Unis, pas pour les
donc de vendre
hein.
Ces grosses merdes pour les grosses fins, c'est ça que je veux dire. D'accord, il n'y a pas de souci, je le dis aussi.
Enfin, après, dans la série des fast-food dont il parle, il n'y a pas que le McDo, hein. Il y a Taco Bell et tout. Enfin, bon, c'est pas
oui,
que
oui,
du
hamburger.
Enfin, c'est de la junk
série,
food en général.
Hein, Taco
bon.
Bell, voilà, Wendy's,
Kentucky Fried Chicken,
Burger King, KFC, Jackson's in the Box, Carl's Jr. Ne pas faire de la pub pour une enseigne en particulier. Voilà, en France, on en connaît vraiment en particulier une, mais il y en a quand même une grande série.
Je suis étonné qu'ils ne citent pas Dunkin' Donuts. Mais bon, bref.
Voilà,
ça,
bref, en tout cas, grâce à ça, et ben, l'impact de cette étude, les enseignes citées et cotées en bourse de New York ont tous fini au-dessus des performances du Dow Jones mercredi dernier, jour de la sortie de l'étude. Voilà, donc c'est un marché en plein essor. Et donc, grâce au cannabis, eh ben, les enseignes de fast-food eh ben, s'engraissent et gagnent en pourcentage.
Font leur chou
les
gras.
Les actions gagnent.
Dans les États où c'est légal. Uniquement, hein.
Uniquement.
Voilà.
En général, ils gagnent partout.
Je suis pas sûr qu'ils gagnent dans des États où c'est encore interdit.
Ouais, mais je pense pas que ces enseignes y aient une cotation par État.
C'est une cotation globale. La cotation est globale, mais c'est des ventes en plus qu'ils ont faites dans les États où c'est légal.
Voilà. Donc, grâce à ça, ils ont gagné un ou deux points.
Ouais. Imaginons si c'était légal dans tout le pays. Ça serait autre chose. Voilà. Alors, on en avait déjà un tout petit peu parlé il y a quelques années. Hein. Je ne sais pas qui aux États-Unis, un médecin ou quoi, disait que effectivement, il faudrait surveiller ça, justement, le fait que la consommation ouvre l'appétit et que ça peut être un problème de consommation de nourriture. Plutôt malsaine pour la santé, quoi.
Mmh, mmh.
Donc effectivement, ça demande à être observé, tout ça. Voilà. Alors juste aussi, je voulais dire que quand même, le fait que ça ouvre l'appétit, les munchies, tout ça, c'est quelque chose de très positif pour des personnes qui souffrent et qui sont malades, et qui ont perdu l'appétit notamment. Parce que le cannabis, ça sert aussi à ça. Hein. Ça sert aussi à ouvrir l'appétit, justement, chez des gens qui n'en ont plus,
voilà,
et qui ont besoin de manger hein, pour prendre quelques kilos, parce qu'ils font que 30 kilos, par exemple.
Voilà, donc ça existe, c'est pour ça que ça a beaucoup marché pour des sidéens ou pour des
myopathes, par exemple. Des gens qui ont des myopathies.
Des myopathes, ou alors des gens qui sont en chimiothérapie,
aussi,
puisque c'est connu pour couper l'appétit. Donc, l'effet du chambre. Voilà.
Ça sert aussi à des personnes qui sont co-infectées, des personnes qui vivent avec le VIH et une hépatite C.
Ça ouvre l'appétence, donc l'appétit, tout à fait.
Voilà,
donc pour finir, la conclusion de cet article, c'est la législation de plus en plus ouverte sur cette question aux États-Unis a permis l'émergence d'une véritable filière qui pèse plusieurs milliards de dollars. Donc c'est le cannabis.
Pardon ?
C'est
le cannabis business.
Le cannabis business, voilà.
Les canapreneurs, les ganjapreneurs.
Voilà, donc le marché légal représentait l'an dernier en Amérique du Nord 6,7 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 34%. C'est-à-dire que ça représentait 4 milliards il y a l'année d'avant. Et ça va représenter sans doute 10 milliards l'année prochaine. Oui. Voilà, c'est sans compter les accessoires et autres produits dérivés. Donc les start-up de la WIT Tech se développe des comparateurs de prix, des plateformes d'information, des réseaux sociaux où vendent en ligne des produits continuent, elles, de séduire les investisseurs. Aux acteurs traditionnels d'en profiter désormais. Voilà ce que ça donne. Vive le cannabis-ness, en tout cas.
J'espère
que Macron va se réveiller là-dessus, parce que sinon on va laisser passer et ça sera d'autres qui en profiteront.
J'espère que les acteurs traditionnels n'en profiteront pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Parce que les acteurs traditionnels, c'est aussi des businessmen, des grosses multinationales et tout, et ça serait bien que ces gens-là et ces organisations...
Voilà, et c'est pour ça qu'on rêve d'une légalisation à l'uruguayenne, c'est-à-dire en essayant de mettre dehors justement tous ces gros profiteurs, gros capitalistes qui vont nous vendre de la merde avec plein d'insecticides, de pesticides et toutes les saloperies courantes, et nous on en veut pas de l'herbe pure, de l'herbe
autoproduite,
saine, de l'herbe
autoproduite. Voilà, on n'a pas besoin d'acteurs, d'investisseurs ou d'acteurs traditionnels qui viennent.
Voilà, donc des systèmes avec des cannabistros, avec des cannabis social clubs, avec ce qu'on veut, mais réduction totale d'insecticides, pesticides, quoi. On veut du vert, on veut du bio, comme pour ce qu'on mange, quoi.
Il y a déjà plein d'insecticides et de trucs dans ce qu'on mange.
Allez, on change de sujet, on passe à un autre communiqué de presse du cirque que je vais te laisser. Au CHU de Nantes, les dealers ne portent pas de blouse blanche. C'est le communiqué de presse du 29 septembre.
Voilà, donc certainement ça nécessitera quelques explications après ce communiqué de presse. Alors,
explique en même temps, hein.
Je vais le lire et puis après on va expliquer. Je trouve que c'est quand même plus pratique. On savait que dans différents services de nombreux hôpitaux de l'assistance publique, des patients et des patientes s'adonnaient à la prise de drogue, du cannabis en l'occurrence. Cette pratique, parfois encouragée par le personnel, intervient dans le cadre des effets secondaires de traitements lourds que la médecine conventionnelle ne parvient pas à pallier ou qu'elle refuse d'entendre. Il arrive même, mais surtout ne le répétez pas, que cette drogue soit gracieusement proposée aux malades en toute discrétion, étant donné son statut illicite. En cancérologie ou en rééducation, entre autres, les effluves cannabiques se font sentir dans les jardins, ici pour redonner de l'appétit, hein, comme on disait, ou prévenir des nausées consécutives des chimiothérapies, ou là, pour réduire des spasmes musculaires que subissent paras ou tétraplégiques. Malgré une absence totale de reconnaissance des vertus thérapeutiques du chanvre, celui-ci circule plus ou moins ouvertement, et les patients partageant leur expérience avec les nouveaux dans un esprit de solidarité et d'entraide. Ce qui se passe depuis de nombreuses années à l'Hôtel Dieu de Nantes, ainsi que dans beaucoup d'hôpitaux, je précise, relèverait d'un autre domaine, bien que, sans doute, cela puisse aussi répondre à une demande. C'est la CFDT du CHU qui, tout récemment, dénonçait une situation devenue insupportable. Il semble en effet que des individus revendeurs s'infiltrent dans les locaux de l'établissement pour y mener leurs affaires auprès des personnes hospitalisées. Celles-ci présentes parfois, pour des problèmes liés à des usages problématiques de drogue, se trouveraient ainsi incapables de se soigner. Contacté par le cirque, un membre du syndicat nous expliquait que cela s'aggravait, d'où l'appel de la CFDT lancé aux autorités pour que cesse cet état de fait. Interrogé sur les moyens qu'il s'accordait pour distinguer le revendeur venu là pour répondre à la sollicitation d'un ou d'une patiente, usagers thérapeutiques, d'un autre, le syndicat s'en est montré incapable. Une réponse purement pénale et répressive à cette situation semble, selon nous, vaine et contre-productive. Elle ne ferait sans doute que déplacer le problème, la demande étant là. Cela conduirait de plus à stigmatiser les malades en ajoutant le délit d'usage de drogue à leur pathologie. C'est à une réflexion plus globale sur les effets délétères de la prohibition et la nécessité d'en sortir que le cirque invite les syndicats et le personnel hospitalier de Nantes, et d'ailleurs, à réfléchir à tout ça. La main invisible du marché noir tend à s'abattre partout où l'on retrouve des consommateurs, et il y en a partout.
Et oui, partout, dans tous les âges, dans toutes les sociétés, dans tous les... voilà, dans tous les milieux sociaux.
La société ne pourra plus longtemps supporter cette intrusion dans les espaces publics ou privés. Il faudra bien alors réfléchir à réguler afin que l'approvisionnement se fasse désormais dans des lieux dédiés à cet effet, interdits aux mineurs et garantissant une traçabilité des substances proposées. Une solution pragmatique, bien plus pertinente que la contraventionnalisation annoncée de l'usage des stupéfiants. Voilà. Donc, petite explication rapidos. Il y a des gens qui souffrent de différentes pathologies à l'hôpital. L'usage du cannabis pour se soulager, pour planer, pour tout un tas de raisons, est présente dans les hôpitaux. Et effectivement, il s'avère que dans certains endroits, il y a du deal, et qu'il y a effectivement des petits dealers qui viennent dans les hôpitaux pour faire leurs affaires. C'est absolument pas surprenant, ce n'est absolument pas nouveau non plus. Ça existe depuis très longtemps. Voilà. Donc effectivement, ça peut poser problème, et c'est pas étonnant qu'il y ait du personnel ou des syndicats qui s'agacent un peu de cette situation, et surtout quand on voit comment c'est traité par les pouvoirs publics, qui ne voient cela que d'un aspect, que d'un œil policier, juridique, où il faut réprimer, voilà, tout ça. Bon. Et puis ça marche pas. Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Voilà. Donc, pour ce petit communiqué de presse du cirque. Et en tout cas, ben voilà, s'il y a du personnel hospitalier qui nous écoute, qui écoute Cannabis Circus, s'ils veulent contacter le cirque, comme ils l'ont déjà fait en région parisienne, visiblement, ils peuvent toujours le faire avec.
Voilà, et puis s'il y en a qui veulent venir nous à l'antenne pour faire. Pourquoi pas pour donner des témoignages. Nous sommes preneurs. Voilà, vous contactez le cirque 06 11 53 10 07. Voilà, vous expliquez ce que qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dire. Et je pense que nous serions très heureux de vous accueillir à l'antenne pour montrer la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux publics ou pas ou voilà. Psychiatrique ou pas, ou général, parce que je pense que c'est un petit peu partout.
Ah oui, oui, c'est déjà longtemps que ça existe.
Pardon. Autre chose, et on change, voilà, on va sur Libération, on va sur l'Octrice, c'est toujours cette fameuse histoire qui remonte à 3-4 ans, vous savez, ces fameux 7 tonnes qui ont été chopées.
C'était il y a 2 ans.
Ouais. Ouais, ben, par ces 7 tonnes qui ont été chopées.
7 tonnes 2.
Par les douanes, et en fait, c'était l'Octrice qui faisait un truc en sous-marin, qui avait fait rentrer 20 tonnes, qui en avait perdu. 21, qui en avait perdu. Donc 14, et donc qui surveillait ces 7 pour faire tomber un réseau, et les douanes leur ont empêché, et voilà, et à la tête de tout ça, donc c'était François Thierry, le directeur de l'Octrice, avec qui avait recruté donc un super indic que l'on appelle le Chacal. Alors, d'après, quand on lit le titre de Libé, ancien des Galles espagnols, pointure renommée du milieu, cet homme insaisissable avait une autre facette, indique pivot pour la stratégie du commissaire François Thierry. Une révélation de Libé qui souligne une nouvelle fois le jeu trouble de l'ancien patron de l'office antidrogue. je sais pas comment c'est encore un épisode. Bah, alors, je sais pas l'écrivain qui va écrire ça, qui va mettre cette réalité en parole et qui va en faire un roman, mais ça va être spectaculaire, quoi.
Alors, dans cette affaire dont on a déjà parlé beaucoup de fois, à plusieurs reprises, il y avait un indice, le fameux Sofiane H. Hein. Mais visiblement, il semblerait que ce soit pas grand-chose, hein, à côté de ce fameux chacal. Hein.
Mais c'est le même.
Ah mais non, pas du tout.
Ah non, c'est un autre.
Absolument pas.
Ah, bah si, parce que j'avais cru que c'était le même, parce que comme il est inscrit sous un faux nom au bureau central des sources, présenté tour à tour comme un riche homme d'affaires, un tueur professionnel, un juge de paix, un ancien mercenaire reconverti dans le trafic d'armes, un ancien du Mossad, un indique protégé au plus haut niveau de l'État de Paris, comme un Madrid.
Non, ça c'est le chacal.
Insaisissable que sa légende.
Voilà, ça c'est le fameux chacal, mais le Sofiane H, c'est encore une autre personne.
C'est l'indique de toute la France policière et douanière. Et je pensais que c'était le même.
Pas du tout.
Ah, bah explique-moi ça. Bah, ouais, ah, je nage, je ne comprends plus rien. Je pense que le roman est trop compliqué. La réalité dépasse vraiment la fiction.
Non, ce fameux chacal, il semblerait que ce soit aussi un peu un homme de main, hein, en fait, hein, qui a été utilisé par le pouvoir politique espagnol pour venir en France et liquider des militants de l'ETA qui étaient en France. Donc utilisé pour les basses œuvres du pouvoir politique espagnol. Mais il a effectivement également travaillé avec François Thierry. Et il semblerait que François Thierry, ce chacal et le Sofiane H aient commencé à travailler ensemble à partir de décembre 2009.
Oui, parce que oui, tout à fait. C'est vrai que Sofiane H, qui est un autre, indique, et c'est bien précisé dans l'article, donc c'est bien deux personnes différentes.
Tout à fait, le Sofiane.
C'est un soutien actif du chacal. Et c'est vrai que nous le savons depuis déjà au moins l'émission d'avant, voire l'émission précédente. Sofiane H est un indique qui a été recruté dans les prisons espagnoles.
Voilà.
Par François Thierry.
Tout à fait.
Le directeur de l'Octrice.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, celui-là travaillait de concert avec le Chacal, donc un autre indique encore plus connu, et qui lui travaille avec les polices anti-drogue de toute l'Europe. C'est bien ça. Et c'est encore un plus gros dealer. J'ai bien tout compris, hein.
Oui, c'est un peu ça. Après, je sais pas si c'est un plus gros dealer. En tout cas, il connaît quand même beaucoup de monde. Et puis,
bah ouais, puisqu'il est un ancien mercenaire, un juge de paix, un ancien du Mossad, un tueur professionnel, un homme d'affaires. Quoi, il est un peu tout. Quoi.
On sait pas bien. Enfin, bref. En tout cas,
il est d'origine algérienne. Il est né en 52. Son nom le plus connu est Alain David Benhamou. Il apparaît dès les années 80 quand même, hein. Ouais. Il n'est pas tout jeune cet homme-là. Hein.
Alors en fait ce qui se passe c'est pourquoi en fait François Thierry ou l'Octis s'est mis à travailler avec lui, l'une des raisons c'est qu'en fait ce fameux chacal fait ses petites affaires et un peu sa vie dans le sud de l'Espagne. À tel point que, bon, visiblement, c'est un gars qui est connu parce qu'on lit dans cet article qu'il n'hésite pas à parader dans le port de Marbella au volant de sa Lotus jaune, vêtu d'un pantalon léopard et d'une veste en piton, déjà le tableau, et avec un pistolet mitrailleur Uzi sur le siège passager. Donc quelqu'un qui ne se cache pas. Parce que quand on est habillé dans un tel accoutrement avec un pistolet mitrailleur sur le siège passager de sa voiture de sport, il y a mieux pour passer inaperçu quand même. Hein. C'est à cette époque, donc au début des années 90, qu'il commence à travailler activement avec la police. Alors il est d'abord recruté par la PJ de Bordeaux, puis très rapidement il est redirigé vers la direction des enquêtes douanières, avec qui visiblement il va faire de belles affaires.
D'accord, donc ça y est.
Puis le service interministériel d'assistance technique, c'est-à-dire la cellule qui chapeaute l'ensemble des indics et gère les infiltrés. Et là, il est pris en charge par François Thierry, qui à l'époque n'est pas encore le directeur de l'Octis.
D'accord. Et donc en fait, c'est grâce à lui que les douanes sont arrivées à choper. Comment il s'appelle Sofiane.
Le fameux
H,
Sofiane.
Qui, lui, travaillait pour l'Octis directement. En fait, il faisait de l'ombre à lui-même. Donc lui, il a vendu à la douane ce contact. qui était aussi le contact de François Thierry, de l'actrice, quoi.
J'ai pas tout compris, mais...
Bah en fait, pour se venger comme l'autre, Sofiane H. commençait à lui faire de l'ombre en tant qu'indic, il l'a vendu à une autre source, à la douane, plutôt que de le vendre à l'actrice. En fait, c'est lui qui a déclenché la guerre des polices, en gros.
Ah bon ?
C'est une guerre d'indic qui a déclenché la guerre des polices, non ? Ça te plaît pas comme...
Mais je retrouve pas ça dans le texte, en fait.
Bah non, mais moi, je le vois pas dans le texte, je l'interprète.
D'accord.
Je te propose ça comme sujet de...
Ok, si tu veux, je...
Non, ça te va pas.
Je dois pas être assez... Je dois pas être assez... Assez
barbe. Pas assez corse, peut-être. Alors.
Ouais, peut-être. Parce que toi, tu l'es, toi.
Non, non, pas du tout. en tout cas, non, parce qu'en plus, parce que je savais pas, je viens enfin de trouver ce qu'était le GAL, en fait. C'est le groupe Antiterrorisme de Libération. Vraiment, mais c'est vraiment un truc, mais c'est ouf, quoi.
Mais c'est un truc espagnol, ça.
Ouais, mais ouais. Ça ressemble à rien, leur truc, quand même. Hein.
Voilà. Alors, bon, il se trouve que. En mars 2009, effectivement, le fameux Sofiane H avait été interpellé dans le sud de l'Espagne. Voilà. Et effectivement, ce fameux chacal va, comment dire, va aider le François Thierry à retourner Sofiane H dans sa cellule par l'intermédiaire d'une de leurs connaissances communes. Voilà, Daniel S, hein, qui est un trafiquant bien connu des services de police.
Voilà, donc, ouais, non, mais c'est des trucs de ouf quand même. Hein, je vais vous lire deux, trois trucs, je sais pas. Alors, par exemple, une phrase, au sommet de la PJ, l'échec patent de la lutte anti-stup et la pression politique poussent un petit nombre de responsables policiers à repenser entièrement le dispositif.
Ça, c'est intéressant, oui. En effet.
Là, ils arrivent à des trucs. Des équipes communes, hein, je saute deux, trois petites choses, nouvelle stratégie, des trucs présentés comme révolutionnaires, cette stratégie à Beauvau. Donc, des équipes communes de renseignement sont mises en place entre la France et l'Espagne afin d'intensifier les échanges. Les policiers espagnols ayant été autorisés par le passé à traverser la frontière pour venir traquer les militants de l'ETA, leurs collègues français veulent pouvoir faire de même avec des centaines de truands français qui coulent des jours paisibles dans le sud de l'Espagne. Donc à partir de 2008, un programme de recrutement massif d'informateurs est rétabli afin d'infiltrer progressivement le système. Donc un homme joue alors un rôle décisif dans ce distributif, grand patron du SIAT, ayant la haute main sur l'ensemble des indics. François Thierry est au cœur des opérations. Et c'est là qu'on retrouve l'actrice. Voilà, donc c'est là qui recrute donc Sofiane H. Grâce à l'entregent du chacal. C'est incompréhensible. Mais je te dis, c'est un roman, c'est un film. C'est un film 3D, quoi. Mais il n'y a aucun romancier qui est capable d'écrire ça, quoi. On le prend pour un fou, on se dit que c'est pas possible.
Moi, je pense qu'il y a des romanciers qui sont capables d'écrire. Moi, ce qui m'étonne, c'est que là, ça dépasse même le roman et la fiction.
Ah ouais, non, mais c'est...
Alors, bon, quand même, venons-en un peu au point intéressant, au fait intéressant, c'est plutôt en fin d'article.
Donc, alors, on va reprendre la stratégie, juste, j'ai avancé, on a sauté plein de petits chapitres. Si vous voulez en savoir plus, hein, je vous invite à lire. Donc, c'est l'article de Libération du 28-9, hein. Donc la stratégie consiste à suivre la drogue vendue par les réseaux de Sofiane H. Donc lui, c'est celui qui a passé les 21 kilos dont on a retrouvé les 21 tonnes dont on en a retrouvé que 7, hein, afin donc de suivre ces réseaux, afin d'identifier les filières d'acheminement au risque d'enrichir le trafiquant et de perdre une grande partie de la marchandise. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que je viens de dire. Donc à l'époque, le rapport policier confidentiel auquel Libération a eu accès pointe des incohérences, des irrégularités et des montages suspects qui entourent cette première opération. Myrmidon,
oui, c'est comme ça qu'elle a été baptisée.
Mais au sommet de la DCPJ, personne ne bronche, en interne, donc, guillemets, en interne, le sujet était devenu totalement tabou, se souvient un policier en poste à l'époque. La version officielle était que l'opération Myrmidon constituait une première en la matière et qu'elle avait été couronnée d'un plus gros succès.
D'un très grand succès, oui.
Ouais. Côté espagnol, pourtant, l'interpellation rocambolesque du commissaire Thierry, l'ombre du chacal et les conditions pour le moins floues de l'opération de déchargement sur une plage ont fait quelques vagues. À Madrid, l'opération a même été rebaptisée opération Sastre, pour désastre. Signe de cet agacement, le juge espagnol ayant autorisé la livraison surveillée ne tarde pas à demander à ce...
Ne tarde pas à demander ce que sont devenus les 3,5 tonnes entrées en Espagne avec son autorisation.
Alors qu'en plus, il y en a 21 tonnes qui sont rentrées.
Voilà, bon.
Il s'est vraiment fait gruger lui aussi. Bref, c'est un désastre.
Bah, ce qui est un désastre, c'est que, en fait, sur toutes ces quantités, ces tonnes et tout, on ne sait pas où ça va, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que il y en a qui en profitent dans l'histoire là, et c'est pas forcément ce qu'on imagine.
Voilà, donc on arrive à la fin à la conclusion de l'article de Libération et à la conclusion de notre émission. Donc à Nanterre comme à Beauvau, pourtant les hauts responsables policiers sont ravis. Combien d'entre eux connaissent alors le rôle exact du chacal dans cette opération? Savent-ils que l'ex-mercenaire du GAL est un acteur clé du nouveau système mis en place? Début avril 2010, après plusieurs semaines sur la Costa del Sol, l'équipe de policiers français quitte finalement l'Espagne. Auréolé de son dernier succès et fort de ses nouveaux indices, François Thierry est attendu chaleureusement à Paris, où, à la tête de l'Office central des stupes, vient de lui être formellement confié.
Ou la tête vient de lui être confirmée. Pas voilà. Ou à la tête, mais on vient de lui
Quant
donner la
chacal,
tête.
Quant au chacal, il serait récemment retiré en Afrique du Sud.
En Amérique du Sud.
En Amérique du Sud, pardon. Mais personne n'en est tout à fait sûr. Voilà, voilà, un petit peu. Et donc, ça, c'était dans les années 2010, c'est ça ou...
Oui, c'est 2010, oui.
Voilà, donc ça a bien avancé, mais moi, voilà, non, c'est quand même abracadabrantesque.
Ben, oui, enfin, ce qui est quand même, moi, ce que je trouve surprenant, c'est que il n'y a pas vraiment, enfin, en fait, il n'y a pas de hiérarchie qui suit vraiment les dossiers, quoi. C'est ça que je trouve quand même incroyable dans l'histoire.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de juge, quoi.
Bah, si François Thierry.
Il y a une hiérarchie, il y a François Thierry, il est directeur de l'Octrice.
Oui, mais là, quand ça se passe à l'époque, il n'est encore pas directeur de l'Octrice.
Ah.
Bah non, bah, c'est ce que tu viens de le lire.
Oui, tout à fait. Oui, voilà. Il était juste à la tête du SIAT.
Voilà, quand ils ont monté leur truc et qu'ils ont fait décharger 3,5 tonnes et entrer en Espagne, avec l'autorisation de la justice espagnole, il n'est encore pas directeur de l'Octrice. C'est déjà le. Je pense qu'en Espagne, au niveau des policiers et des magistrats, ils se posent des questions. Donc, il revient en France et hop, on lui donne la direction de l'Octis.
D'accord, donc déjà en 2010, il commence à faire des trafics et à passer des trucs en loose dé. Et là, on le rechoppe en 2015. Donc pendant 5 ans, il a passé plein de drogues.
Oui, parce que...
Et donc quasiment 20 ou 30% de la drogue fournie en France l'a été grâce à l'Octis, en gros, hein. Si on comprend bien tout
sans
ça.
Sans doute, oui. Parce que bon, là, c'est...
Et alors, à qui a profité tout cet argent? Ça, c'est la grande question.
Ça, c'est la grande question, ouais.
Sans doute à quelques politiques bien placés. Oh. Il faudrait pas que je dise ça, parce que c'est juste de l'intuition ou de l'interprétation.
Mais à lui. À François Thierry, ou et peut-être
oui,
au chacal.
Mais
faut... et...
les gens sont toujours protégés.
Ouais, il a peut-être
un
avis,
ça doit être un petit peu plus compliqué.
Protège, mais je suis pas étonné que.
Je pense que je vais relire certains romans policiers de Michel Blanc. Et il y a des trucs justement avec des mélanges de passages d'argent, de passages d'armes, de passages de stupes. Et lui affirme que ce qu'il dit est en partie vrai. Je pense que ça doit être aussi en partie avec ça.
C'est
donc
dommage,
je vais peut-être
que
le relire d'autres façons.
C'est vraiment dommage.
Il
y a un paragraphe qu'il fallait absolument aborder, qu'on n'a pas du tout abordé dans l'article.
Alors je t'en prie, je te laisse une minute.
Bah non, c'était juste pour voilà, parce que je pense qu'il y a quand même des trous là dans la compréhension. Je suis pas sûr que les auditeurs auditrices aient vraiment tout compris.
Bah moi, je comprends pas tout, donc.
Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant de dire ça, c'est-à-dire que. En fait, François Thierry, il ment aux autorités espagnoles, c'est-à-dire qu'il leur a dit en 2010 qu'ils avaient saisi qu'ils avaient fait une saisie de 600 kilos à Marseille en janvier 2010. Mais il dit autre chose aux Espagnols. Il leur dit que hop, ils auraient aussi arrêté 8 personnes et qu'ils auraient saisi 1 tonne 86. Une tonne 86, c'est pas 600 kilos, hein. C'est trois fois plus, quoi. Voilà.
Il y a un kilo d'œufs qu'il faut bien payer, il faut bien payer les indics.
Certainement. Et présenté, parmi les saisies qui sont présentées dans le compte-rendu, dont deux sont censées quand même avoir eu lieu avant même que la drogue arrive en Espagne. Voilà. Donc le montage est considéré comme grossier, effectivement, et que le compte-rendu de la livraison mettait en évidence que les résultats avaient été maquillés et falsifiés pour contenter l'autorité judiciaire espagnole. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire que les Espagnols, très vite, se sont certainement doutés qu'il y avait un souci avec François Thierry ou avec les méthodes ou les gens qui travaillaient avec la police.
On peut même continuer à délirer en se disant que le chacal n'existe pas, que c'est une pure fiction montée par François Thierry pour sortir des sous.
Peut-être, oui, peut-être.
Mais bon, là, nous divagons sans aucune preuve, juste par des intuitions, des lires. Et en tout cas, c'est sûr que dans cette affaire... La fiction, quoi, la réalité dépasse toutes les fictions qu'on pourrait imaginer.
Ah ben là, oui, c'est costaud. Ouais.
Et voilà.
Bon, allez.
En tout cas, on va finir cette émission avec encore un petit disque.
Non, je pense qu'on peut. Ah, parce qu'on n'a pas de générique.
On n'a pas de générique, donc ça va être encore Billy the Kick. Une petite chanson comme ça et qui paye pas de mine.
Eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus et tout de suite après cette petite chanson, c'est Chasseur de Son. Au revoir.
Mais ça veut dire quoi normal ? C'est quand même pas de ma faute si je bats pas que sur moi. C'est moi l'idiot du village. Je cope toutes les mouches que je trouve pour m'empêcher de faire le con.
On file des cachetons. Quand j'étais petit, j'étais un abruti. Maintenant que je suis grand, je suis toujours aussi grand.